Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Jérôme Pinault, Ludo Duchesne, Marion Bartoli ce matin. Si vous vous réveillez seulement, bah déjà, vous avez de la chance à 11h05 ce matin. Nous, on est debout depuis 9h, donc vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant sur l'appli RMC. Et c'est une promesse, faut vraiment écouter le podcast parce qu'ils sont en forme depuis ce matin. Ils sont pas d'accord sur tout, mais c'est pour ça qu'on les aime et c'est pour ça que ça fait des bons débats. Dans 30 minutes, on va ouvrir le dossier des GG autour de la Ligue 1 et de Ligue 1 Plus qui va lancer sa campagne d'abonnement demain avant la reprise. Est-ce que vous croyez en Ligue 1 Plus? On vous donne les toutes dernières infos avec Arthur Perrault dans un instant. Et puis à 11h45, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir débattre. Et je pense que vous n'avez pas d'idée là sur le débat. Je suis sûr que vous n'avez pas d'idée. Je vous donne un petit indice. Ça a enflammé la toile cette semaine.
Ah ouais, non, je pensais à l'équipe de féminine de football de Montpellier, mais non, c'est pas ça donc.
La toile, c'est Internet, hein, Ludo, pour toi.
Oui, non, c'est
pas la toile d'araignée. Hein,
ça, non, voilà. J'avais compris.
Ok, très bien. Bon, aucune idée.
C'est moche.
Voilà, bah oui, c'est moche. Bon, on verra ça à 11h45. Oui, c'est un peu mon style. Allez, d'abord, pas de vote à bulletin secret. Hein. Nous, on se dit tout dans les GG, c'est pas
exactement.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Les élections municipales approchent et les candidats ont commencé leurs opérations séduction auprès des électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix. Quelles sont les méthodes employées?
Si Mbappé fait la même saison qu'Ousmane Dembélé en soulevant une Ligue des Champions, en étant impactant sur la phase finale comme l'a été Dembélé au Paris Saint-Germain, mais il n'y a pas de débat.
8h, les premiers clients arrivent au marché de Blény-sur-Orge. Et les militants sont déjà sur le pied de guerre en attendant leur candidat.
Évidemment que je suis pour Ousmane. À choisir, je vous dis Ousmane à 100%, bien évidemment.
9h. Il est maintenant temps pour les candidats d'engager le dialogue avec les électeurs.
Message super important. Et Ousmane, Ballon d'Or.
13h. Un à un, les commerçants quittent le marché. Mais les candidats se retrouvent pour faire le bilan de cette matinée malgré leurs divergences politiques.
Celui qui mérite le ballon d'or cette saison, oui, non, c'est Ousmane Dembélé.
Il y a deux très bons joueurs qui sont français, qui peuvent l'avoir. Il y en a un qui joue Real Madrid, il y en a un qui joue Paris Saint-Germain. Donc je voterai pour les deux.
Ousmane Dembélé, au vu de sa saison, plus la Ligue des Champions, je pense qu'il le mérite.
Tu trouves ça peut-être politiquement correct.
Cette semaine, les 30 nommés pour le Ballon d'Or ont été dévoilés. Parmi ces 30 joueurs, on retrouve donc 9 joueurs du PSG: Dembélé, Donnarumma, Doué Hakimi, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha. 9 joueurs d'une même équipe, c'est d'ailleurs un record. Reste à savoir si ce sera un joueur parisien qui remportera ce titre le 22 septembre prochain. Pour ça, cette question, les GG: est-ce que le PSG doit choisir de faire campagne pour Dembélé? Oui ou non? Jérôme Pinault.
Non.
Marion Bartoli.
Plutôt oui.
Ludovic Duchesne.
Ben oui, ils font campagne.
Alors, ils font campagne. Nasser Al-Khelaifi, effectivement, avait déjà dit après la victoire en Ligue des Champions qu'il ne comprendrait pas qu'Ousmane Dembélé ne soit pas Ballon d'Or. Vitinha a d'ailleurs déclaré également au micro de Ligue 1 Plus, le nouveau diffuseur de la Ligue 1, que son coéquipier le méritait. Écoutez Vitinha.
Ça passe, c'est incroyable. Mais je pense et je trouve que le plus mérité, c'est Ousmane cette année. C'est vraiment l'homme qui nous a amené jusqu'à la fin, jusqu'au titre qu'on a gagné. Et pour moi, dans mon avis, c'est lui le mérité, le gagnant du Ballon d'Or cette année. Mais c'est vrai que tout le monde rêve de gagner le Ballon d'Or une année, un jour. Mais voilà, si ça vient, c'est incroyable.
Alors, on dit qu'il n'y a pas de malaise au sein du vestiaire, même si certains coéquipiers de Dembélé rêvent forcément de remporter ce trophée, et ils le disent quand même clairement. C'est le cas d'Achraf Hakimi. Dans une interview qui a été diffusée, où les premiers morceaux ont été diffusés hier, interview donnée chez nos confrères de Canal+, Achraf Hakimi,
avec l'excellent Bertrand Latour,
exactement, se dit clairement candidat et légitime pour obtenir la récompense suprême. Écoutez.
Quand les gens ils me mettent sur les débats, comme je dis, des ballons d'or, c'est un rêve que j'ai jamais pensé. Et maintenant, si j'ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi. Après la saison que j'ai fait historique, il n'y a pas de beaucoup de joueurs qui sont marqués quart de finale, demi-finale, finale. En tant que défenseur, que c'est plus difficile. Les gens ils pensent que je suis attaquant au milieu. Maintenant, je joue à ligne de 4 et je devais penser à défendre. C'est plus difficile ça. Et après, les statistiques que je fais cette année, c'est de pas un défenseur normal. Et je pense qu'un défenseur, quand il fait ça, je pense qu'il mérite plus qu'un attaquant.
Il mérite plus qu'un attaquant. Voici les mots d'Achraf Hakimi chez nos confrères de Canal+. Le PSG doit-il faire campagne pour Dembélé 32-16 pour nous rejoindre? Ludo, toi tu as dit ils font déjà campagne. Pas tous, hein, visiblement. Hein. T'as vu, entendu là cette déclaration. Voilà, ça tranche un petit peu avec le Ousmane Dembélé Ballon d'Or qu'on entendait. Hein.
Non, mais on peut aussi comprendre Hakimi qui a des statistiques d'attaquant. Donc c'est vrai que quand il dit qu'on ne sait pas à quel poste il joue, c'est une vérité. Il a fait une saison totalement fantastique. C'est un athlète hors norme. Mais c'est vrai qu'il joue à un poste où les défenseurs sont très rarement récompensés. Ou alors encore certaines années où personne ne se détache. Cette année, il y a quand même deux joueurs qui se détachent, c'est Dembélé et Yamal. Et donc, évidemment, il sera derrière. Pour moi, c'est une évidence. Après, le PSG, oui, fait campagne. On l'a vu à Roland-Garros où Dembélé est venu proposer le trophée aux Français sur le cours central. On l'a vu dans différentes manifestations où il a été mis en avant. On a entendu Didier Deschamps, son président, Luis Enrique, beaucoup de ses coéquipiers. Et je pense que pour le football français, c'est très important que Dembélé ait cette récompense. Parce qu'au niveau statistique, il est au moins, j'allais dire, à égalité avec Yamal, il est au-dessus, il a des statistiques meilleures. Et au niveau collectif, voilà, le Paris Saint-Germain a tout remporté pratiquement. Donc, il n'y a pas photo pour moi. Et de là, et si la question, je reviens à la question, c'est de faire campagne. Il faut évidemment faire campagne parce qu'on l'a compris ces dernières années. Le Ballon d'Or, c'est politique. Il y a des influences, il y a des manifestations qui font que, il y a des orientations. On l'a vu avec Messi sur certaines années où, à mon avis, il ne méritait pas d'être Ballon d'Or et il l'a quand même reçu. Donc oui, il faut faire campagne. C'est comme une vraie campagne parce qu'il y a des enjeux qui sont au-delà du sport et c'est de la politique aussi.
Mais il y a un peu de friture sur la ligne du coup. S'ils doivent faire campagne, Hakimi, peut-être que ça n'a pas plu à sa direction. Ça sera peut-être à surveiller dans les prochains jours. Jérôme, toi, t'as dit non?
Il y a une différence entre faire campagne du club pour l'un de ses joueurs et que chaque joueur en interview dise je le mérite et j'aimerais l'avoir.
Si tu fais campagne, si t'as un patron
qui mais dit, c'est pas le club,
on fait campagne pour Dembélé, tous les joueurs doivent s'aligner et dire bah oui, je pense que Dembélé doit mériter.
C'est pour ça que j'ai dit non, parce que pour moi le club c'est quand même la saison à venir est importante et que tu peux pas faire campagne pour l'un plus que
ça
l'autre.
Ça peut poser des problèmes, si c'est ça que tu veux dire.
Je veux dire, oui, évidemment que ça poserait des problèmes et ce serait pas éthique de le faire. La campagne, elle a été faite, Ludo, il l'a dit, avec toutes ces mises en avant d'Ousmane, avec cette chanson au parc lors de la remise du trophée devant les supporters parisiens, avec la présence d'Ousmane à Roland-Garros. Il a déjà été mis en avant. C'est l'élément fort du Ballon d'Or pour le club. Et puis surtout, c'est pour moi aussi le grand favori et ce serait très étonnant de voir ne pas remporter derrière que Achraf Hakimi se disent qu'il est aussi capable et qu'il le mérite, mais évidemment qu'il a le droit de le dire. Maintenant, il y a un élément qui va aussi arriver dans cela, et comme tu le dis, Ludo, c'est aussi très politique. On le sait, il y a une affaire Hakimi en cours, le procès devrait être, en tout cas, on va avoir
prise
de position, et il va être requis, et on va tomber dans la période. Et ça risque d'être un point négatif pour l'obtention de ce Ballon d'Or. En revanche, pour un patron, quand tu as 9 joueurs de ton effectif du même club qui sont potentiellement récompensables et Ballon d'Or, tu peux pas, pour moi, prendre position. C'est pas le rôle de la direction. Alors on connaît.
Ils l'ont fait pourtant,
évidemment.
Jérôme.
Oui, je sais, pour moi, ça doit s'arrêter à cela. Ça ne doit pas aller plus loin que cela. Maintenant, est-ce que le risque, c'est de ne pas l'avoir? Franchement, le football et les instances en sortiraient petits de ne pas donner ce Ballon d'Or cette année à Ousmane Dembélé. Enfin, il y a Yamal et lui. Et lui a tout gagné. Pourquoi il ne l'aurait pas? Ce serait vraiment, là, pour le coup, plus que politique, j'ai l'impression.
Bon, après, ce sont des journalistes qui votent. On rappelle le mode de vote. Il y a 100 journalistes de 100 pays qui votent pour 10 joueurs. Ils font leur classement et en fonction de ce classement, il y a des points. Et à l'issue de ce vote,
et que la Ligue 1 n'est pas le championnat le plus regardé. Et c'est pour ça qu'aussi que c'est peut-être.
Et pour le coup, le Barça
très regardé, la Ligue 1
hein,
dans le monde entier. Donc c'est pour ça que dans certains pays, dans d'autres contrées, on va dire, on regardera plus le Barça, Liverpool, que le Paris Saint-Germain.
Et puis à l'étranger, Marion.
Le Paris Saint-Germain a gagné la Champions League, et Ousmane Dembélé est connu dans le monde entier.
Absolument.
Et dans le monde entier, est une grande star et la tête de gondole de cette équipe qui a écrasé l'Europe cette année, même s'il y a eu un faux pas en finale du championnat du monde des clubs. Si dans le monde, on connaît le football, on aime le football, on connaît forcément Ousmane Dembélé. Enfin, ou alors, j'y comprends plus rien.
Ouais, après, c'est vrai qu'on fait souvent un peu la fine bouche en France en disant il ne faut pas faire campagne. Enfin, les autres les équipes ne se gênent pas. Marion.
Oui, mais à part Pedri, au Barça, ils ne vont pas faire campagne pour 10 joueurs.
Non, c'est sûr. Mais ils ne se gêneront pas pour faire campagne pour Yamal. Il y avait Rafinha, par exemple. Vas-y, Marion.
Exactement. Mais en fait, moi, là où je veux en venir, c'est que le lobbying de la part des clubs qui ont la possibilité d'avoir un joueur qui remporte le Ballon d'Or, il a toujours existé. Et il faut quand même se méfier des Ballons d'Or qui paraissent acquis d'avance, parce que moi, j'ai toujours l'exemple de Franck Ribéry qui me vient en tête en 2013, où il est arrivé à la cérémonie, je pense, en se disant « Mais de toute façon, c'est certain que c'est pour moi, c'est pas possible que je l'ai pas cette année. » Il avait absolument tout gagné cette année-là, ouais. Et finalement, il le donne à Cristiano. Donc moi, je me méfie quand même des Ballons d'Or, où on se dit « Non, mais c'est bon, c'est acquis d'avance, il a tout gagné. » En 2018, quand on le donne à Modric, ok, gagne la Ligue des Champions et fait finale de la Coupe du Monde, mais Varane, il gagne la Ligue des Champions pareil, et lui, il est champion du monde. Et on lui donne pas, parce que c'est un défenseur et qu'on préfère le donner à Modric. Donc parce que aussi, il y a le poids du lobbying des clubs qui ont certainement plus poussé pour Modric, parce qu'il savait qu'il y avait la possibilité plus de l'avoir que de donner un défenseur. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Hakimi essaye aussi un petit peu de prêcher en sa faveur en disant oui, ok, moi je suis un défenseur, mais regardez mes stats, j'ai marqué en finale de la Ligue des Champions, j'ai marqué en demi-retour de la Ligue des Champions, j'ai marqué en quart finale également, j'ai marqué en finale de la Coupe de France, j'étais un des joueurs qui a été quasiment jamais blessé, qui a joué le plus de matchs pour l'effectif du Paris Saint-Germain, donc je le mérite tout autant. Mais que le PSG se désigne ou s'auto-désigne un joueur sur lequel ils se disent ben là, entre guillemets, il coche toutes les cases possibles, il est français. Alors même si le Paris Saint-Germain est bien sûr financé par le Qatar, ça reste quand même un club français. Donc il est joueur français, il est attaquant, il a de belles stats, il est mondialement connu, on l'a mis le plus en avant, allez, on pousse pour lui. Je pense qu'ils le font parce qu'ils se disent que c'est lui qui a le plus de chances de l'avoir et que bien évidemment que d'avoir dans son effectif un joueur qui a obtenu le Ballon d'Or, c'est une plus-value pour le club qui est absolument énorme.
Ouais, après, il y a Vitinha, on n'a pas
exactement,
beaucoup parlé de Vitinha,
je comprends les autres joueurs qui se disent, mais attends, moi aussi j'ai fait partie de l'effectif, moi aussi j'ai gagné beaucoup de compétitions et moi aussi j'ai le droit d'être mis en avant.
Mais
le club,
ils ont des arguments aussi.
Vitinha, il
exactement.
A dit mais c'est Dembélé qui devait l'avoir.
Bah là, il l'a dit. Mais voilà.
Mais le club, je pense, doit choisir un seul joueur. Ça va être difficile de se dire, on va pousser pour tous les joueurs, parce que finalement, à pousser pour tous les joueurs, ils peuvent se retrouver avec le Barça qui va faire campagne que pour un joueur qui est Yamal, et on connaît le poids des instances du Barça au niveau mondial qui est absolument colossal et énorme, et qui peuvent avoir un poids politique et un lobbying qui a une force de frappe qui peut être aussi plus importante que celle du Paris Saint-Germain. Donc le débat de savoir quel joueur ils choisissent, je pense qu'on a expliqué un petit peu les raisons, et je pense qu'ils ont raison de pousser pour un seul joueur, même si je comprends qu'effectivement Hakimi a totalement le droit de revendiquer aussi lui la magnifique saison qu'il a réalisée.
Alors, il y a quelqu'un qui nous écoute depuis plusieurs minutes, qui a envie d'intervenir. Donc on va l'inviter dans le studio.
Il est là.
C'est une surprise dans les grandes gueules du sport, mais on est très heureux d'accueillir Roland Courbis. Salut coach.
Ben déjà salut à tous.
Salut Roland.
Je suis très heureux aussi de vous écouter. Et c'est pas aujourd'hui la première fois.
Mais là, tu veux réagir parce que évidemment on parle du Ballon d'Or.
Parce que
depuis cette semaine avec les nommés.
Le problème, j'ai besoin de vous pour essayer de ne plus me retrouver tout seul dans cette contestation que j'ai depuis plus de 60 ans et que je me permets de dire que le Ballon d'Or, c'est le trophée le plus con de la planète.
D'accord. Donc,
on l'a vu venir.
L'anomalie, c'est que ce trophée qui est aussi con et injuste et le plus de la planète a été fait est construit par des gens intelligents. Donc il y a une anomalie quelque part. J'avais vu à un certain moment une amélioration, parce qu'au début, quand j'étais tout petit, il y a plus de 60 ans de ça, j'ai vu un garçon comme Lev Yashin, qui était un gardien exceptionnel, et lui qui avait fait l'exploit de gagner quelques années plus tard, puisque je crois que le trophée, c'est depuis 1956, donc c'est pas depuis hier. Il y avait quand même le temps de progresser. Et ce que j'appelle progresser, c'est-à-dire que une de mes phrases préférées, c'est peut-être pas la plus stupide, c'est qu'on progresse à tout âge. Donc vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, on va s'occuper de savoir si c'est Dembélé et Hakimi, et on va laisser encore les abrutis avec ce règlement qui est le plus con du monde. C'est-à-dire qu'on met exactement, et j'ai besoin de Marion, pour qu'elle arrive à me donner quelques avis. Elle a toujours un peu la réponse à tout. Je te le dis, c'est un compliment. Là, je chambre pas. Quand par exemple, on parle du Ballon d'Or, et qu'on voit qu'il y a 9 joueurs. Je pensais que le gardien de but c'était terminé,
oui,
et, qu'on avait au moins progressé légèrement, tu vois, dans le football en 58, tu avais un blessé, tu terminais le match à 10, il y avait même pas un remplaçant, et ben on a quand même rétabli les choses petit à petit. Là, on est en train donc d'essayer de m'énerver encore plus en mettant Donnarumma à nouveau dans les joueurs du Paris Saint-Germain.
Alors qu'il y a le trophée Yashin qui a été créé pour donner Ballon d'Or au meilleur gardien.
Excuse-moi, j'ai pas fini. Je sais très bien que tu es au moins aussi bavarde que moi, mais tu as la possibilité de l'être plus souvent. Donc, Pacho n'est pas dans les 9 joueurs parisiens. Non. Donc et ça vous dérange pas de savoir que peut-être c'est pas autre chose que le règlement qui va empêcher celui qui aurait mérité d'être le ballon d'or. Parce que si on me dit que Dembélé, on va tout faire pour qu'il soit ballon d'or, mais je suis très content pour lui, mais il faut pas que je me mette à la place d'Hakimi. Et donc, ce que je demande, Marion, c'est tout simplement qu'il n'y ait pas 10 ballons d'or à 10 postes de nos équipes de football et j'enlève le gardien. Je demande 2 ballons d'or. Un sur le plan offensif et un sur le plan défensif. Toi qui adores le tennis, et on sait pourquoi, tu nous as même réservé la satisfaction de te voir gagner ce monstrueux tournoi. Mais, c'est comme si tu me disais qu'il y a la raquette d'or avec des joueurs de ping-pong et de badminton. Donc, voilà. Et celui qui me dira qu'il gagne la raquette d'or parce qu'il y a des joueurs de ping-pong qui sont très bons et des joueurs de badminton qui sont très bons.
Ça n'a rien à voir, franchement.
Mais ça n'a rien à voir du tout.
On peut pas mettre sur le même plan un gardien, un défenseur, un attaquant.
Mais moi, je veux bien avoir tort. D'ailleurs, c'est bien les débats et tout. On n'est pas d'accord, mais on ne sait pas qui c'est qui a tort. Et je vous donne, et je ne vais pas être trop bavard, je vais arrêter après. J'ai quand même 3-4 souvenirs. Je viens de les entendre. Ribéry, il vaut mieux pas se mettre à la place de Ribéry. Et j'en ai une que je savais pas. C'est Michel Platini, qu'on est exactement de la même génération, avec qui j'ai eu le plaisir de jouer une ou deux fois en espoir, qui a été pour moi, avec Zizou, le gardien, le joueur monstrueux de l'équipe de France, qui me raconte, alors qu'il a eu 3 ballons d'or, il me dit, mais tu te rends compte que j'ai pas eu un 4e ballon d'or, parce que le français, de peur qu'il y ait favoritisme, comme tous les intelligents de France Football ont inventé ce trophée mondial, eh ben, ils n'avaient pas voté pour moi de peur qu'il y ait favoritisme et je n'ai pas eu le 4e ballon d'or. Mais ça n'a fait que rajouter mes nerfs et si tu veux. Que je ne peux pas, sauf si vous m'aidez ce matin, ça me fait pas. Si vous m'aidez ce matin à ce que je fasse machine arrière, je vous promets, je présente mes excuses.
Alors, mais là, la proposition, c'est la proposition.
A priori, on peut avoir
plusieurs ballons d'or. Il y a le trophée Yashin pour les gardiens, un trophée ballon d'or pour les défenseurs, un trophée pour les attaquants. Peut-être que
arrière, milieu, machin, je dis. Ouais. Offensif et défensif. Voilà, deux ballons d'or.
Peut-être que les votes.
Tu t'imagines comme je suis exigeant.
Coach, peut-être que les votes aussi, on sache pas, parce que comme ça, il n'y a pas de. À la fin, on ne dit pas, toi, t'as voté et t'as favorisé le français, etc., etc.
Excuse-moi de te couper.
Ça, c'est une solution.
Le règlement. Si Dembélé ou Hakimi n'ont pas ce ballon d'or, bon, l'ami Yamal aussi, il a quand même été champion d'Europe avec l'équipe nationale. Ça sera par rapport au règlement qui est très con et qui est même trop con.
D'accord, très bien. Voilà. Il faut changer des choses dans le ballon d'or.
Donc, t'imagines Dembélé qui n'est pas ballon d'or parce que ses coéquipiers. Mais il y a les journalistes qui ont voté. Alors, autre chose.
Oh là,
je n'ai pas que des défauts.
Marion, elle va jamais pouvoir répondre. Hein.
Non, mais attends. Après, je me la ferme. Marion, tu me dis si j'ai tort ou si j'ai pas tort. Quand je suis pas d'accord avec quelque chose, je dis pas je suis pas d'accord comme ça. J'essaie d'apporter une solution, bonne ou mauvaise. Et donc, ce que je propose, c'est que il paraît qu'il y a 100 pays.
Oui, sans votant.
Et donc, sans journalistes qui vont voter.
Exactement.
Eh bien, moi, le règlement que je demande dans l'intérêt du Ballon d'Or, c'est que chaque journaliste ne peut voter que 3 joueurs et pas 2 joueurs du même pays.
Oh.
Le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et là, à ce moment-là, le vainqueur, ça sera pas Ribéry déçu, ça sera pas parce que c'est ou Messi ou Rodrigo, ça sera pas parce que Platini, il a subi que un intelligent de notre pays, il a pas voulu qu'il y ait de favoritisme,
donc,
machin, etc.
Pas 3 joueurs du PSG. Tu peux pas voter pour 3 joueurs du PSG ou 2 joueurs du PSG.
Mais déjà, vous me faites plaisir aussi de mettre Pacho à la place de Donnarumma et Donnarumma le mettre. Voilà, parce qu'à ce moment-là, c'est pour te dire quoi? Qu'on a la possibilité de voir Donnarumma gagner un ballon d'or de joueur de champ et Donnarumma gagner un ballon d'or de gardien de but. Alors, stop, là, je vous promets, je ferme ma gueule.
Merci, coach, pour les solutions, parce qu'il apporte des solutions. Voilà, c'est. Il n'aime pas le règlement. Voilà.
Non, mais le règlement est complètement débile. Et là,
t'es d'accord.
Rejoins à 10 millions de pourcents, coach, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Et les exemples sont. J'en ai cité qu'un avec celui de Franck Ribéry, parce que c'est celui qui va vraiment le plus marquer. Mais
à l'époque,
même si on prend celui-là dépassé.
Attends, Marion, juste une petite précision. À l'époque, Franck Ribéry, si on avait fait voter que les journalistes, comme c'est le cas aujourd'hui, il aurait eu le ballon d'or. C'est parce qu'il y avait aussi, à l'époque, le vote des capitaines de sélection.
Il y avait toujours le règlement à la con.
Il y avait, oui, c'était un autre règlement. Voilà. Ils essayent de faire évoluer le règlement.
Ça a toujours été complètement débile. Mais bon, bref, l'année dernière, un exemple beaucoup plus récent, c'était Vinicius qui devait le gagner. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de voix du Real se sont dispersées entre Vini, entre Bellingham et entre Kroos. Et au final, c'est Rodri qui l'a eu. Donc le PSG se dit, si on dilue nos voix comme on a 9 joueurs nommés. Alors là, Donnarumma, moi, j'ai pas compris comment il est nommé. Mais bon, là, je rejoins totalement
coach.
Surtout
qu'il n'y a pas Barcola.
Le problème, c'est que du coup, on va diluer nos voix sur beaucoup trop de joueurs.
Bien
et
sûr.
Que Yamal, qui a quand même de très grosses stats et qui a encore une fois le pouvoir du Barça derrière, risque lui de rafler la mise. Mais là où je rejoins totalement le coach, c'est que, en fait, si tu veux, c'est tellement biaisé au départ. Parce que là, on parle quand même de Dembélé Ballon d'Or. Dembélé n'a jamais été cité parmi les 30 meilleurs joueurs du Ballon d'Or auparavant. Donc, il y a quand même ça. Moi, il y a beaucoup de choses qui me gênent dans la manière dont c'est fait, dans la manière dont c'est voté.
Attalis, rajouter Lewandowski qui n'a pas le Ballon d'Or parce qu'il y a le Covid et on n'a pas la courtoisie.
L'année d'après,
on n'a pas la courtoisie de lui donner. Il faisait semblant d'être content à la réception.
Exactement. Mais il y a plein d'anomalies.
D'accord, il n'y a rien de parfait. Mais ils essayent de faire évoluer le règlement.
Non, mais là, il y a beaucoup de changements. Non, mais là,
il faut que ça soit le plus juste possible.
Il y a un trophée Yachin pour le meilleur gardien et tu mets Donnarumma dans le milieu. Mais en quoi ça a du sens? Ça n'a aucun sens. En tout cas,
il y a eu des solutions d'apporter grâce à un coach. Voilà, donc ça c'est important.
Oui. Je suis d'accord sur les deux types de joueurs. C'est une bonne idée, très bonne idée, coach. Tu as raison.
Voilà. Je dis pas que des conneries.
Non, ça fait longtemps. Ce qu'on peut reconnaître à Roland, c'est de la continuité dans ses idées, parce qu'il dit toujours la même chose.
Mais là, on
va pas faire le débat. Quand je vois que dans la période des matchs de préparation, on ne fait pas la différence entre un match amical et un match de préparation, et que dans un match de préparation, il n'y en a pas un qui disons, dirige un petit peu le règlement de façon différente, c'est par exemple une petite idée. Si on a un expulsé dans un match de préparation, on est en train de se préparer, on ne se prépare pas à 10 contre
10. Et Zizou qui perd 2 ballons d'or à cause de carton rouge reçu.
On pourrait refaire plein de choses, évidemment. On pourrait refaire le débat ballon d'or 1000 fois. On aura l'occasion de le refaire, hein, c'est le 27
ans. Non, mais pense quand même au tennis, ping-pong et le badminton. Essaye quand même de
le proposer.
La raquette d'or. Entre joueurs de tennis, de ping-pong et de badminton.
Moi, je propose qu'on fasse ça.
Attends, si on propose la raquette d'or, Steve Embrun va participer, disons.
Ah oui, possible. Oui, Jérôme.
On a, nous, dans le cyclisme,
le vélo d'or,
où on mélange la piste, la route et le vélo.
C'est n'importe quoi aussi.
Comme quoi, dans.
Voilà. Oui. N'importe quoi.
Ah, ben, c'est la même maison. T'es jaloux de ne pas être aussi con que le football, quoi.
Merci, Roland. Merci mille fois. Merci
beaucoup d'être passé. Je vous embrasse tous.
Et à très bientôt.
Bisous, Roland. Bisous.
Le foot, on continue d'en parler dans un instant, puisque demain, vous pourrez vous abonner à Ligue 1 Plus, qui va diffuser la Ligue 1 cette saison. Les dernières infos, les derniers détails, c'est dans un instant dans le dossier. Dossier des GG sur RMC, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport. sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport, 11h32 ce matin. On est avec Jérôme Pinault, Ludo Duchesne, Marion Bartoli. Dans 15 minutes, le débat caché. Et alors là, c'est un débat qui a enflammé la toile cette semaine, mais nos GG ne savent absolument rien. Voilà, elles ne sont pas au fait de cette information. C'est vraiment un débat très, très grande gueule du sport. Je dis un autre indice, il va y avoir un petit peu de vélo. Un petit peu de vélo. Voilà, peut-être pour Jérôme Pinault. Voilà. Ça dans 15 minutes, vous verrez ça. Mais d'abord, on ouvre le dossier des GG.
RMC, le dossier des GG.
Un dossier qui nous permet de tout comprendre du lancement demain de Ligue 1 Plus, le nouveau diffuseur de la Ligue 1. Donc à partir de demain, vous allez pouvoir vous abonner. Le premier match, ça sera vendredi, Rennes-Marseille. Pour en parler, on retrouve Arthur Perrault, de retour dans les grandes gueules. Salut Arthur.
Bonjour monsieur.
Bonjour. Les dirigeants de Ligue 1 Plus qui ont annoncé cette semaine des précisions sur la façon dont on pouvait s'abonner à leur chaîne.
Oui, pour s'abonner demain, les fans de foot pourront aller sur le site ou l'application Ligue 1 Plus, leur box, DAZN ou encore Prime Vidéo. Tous distribueront cette nouvelle chaîne, une inscription en quelques clics et une nouveauté pour les abonnés avant fin août. Les trois premiers mois seront à 9,99€ avant de passer à 14,99€ avec engagement d'un an. Les premiers jours, la chaîne diffusera des archives, des reportages avant le premier direct, tu en as parlé vendredi, 1h30 avant Rennes-Marseille. La LFP espère avoir accès aux vestiaires des clubs, aux échauffements, interroger des joueurs sur le banc pour un contenu plus immersif. Ligue 1 Plus proposera Nantes-PSG gratuitement dimanche prochain pour exposer son produit. Objectif, 1 million d'abonnés avant la fin de la saison.
Voilà, ça c'est l'objectif annoncé, mais la difficulté forcément c'est en plus de la lutte contre le piratage, Arthur, c'est de gérer des conflits qui sont même pas larvés, hein, qui sont assez, on les voit avec Canal et Bein. Hein.
Oui, puisqu'il y a toujours ce bras de fer en parallèle avec donc Canal Plus et Bein Sport, la chaîne cryptée, un temps envisagée comme distributeur, a décidé de jeter l'éponge en cause. Un désaccord sur le prix de l'abonnement, notamment le média qatari se montre lui encore plus dur et réclame la liberté totale dans ses choix de match pour l'affiche du samedi à 17h. Demande à laquelle LFP Média refuse d'accéder. Son président Nicolas Taverneau a été clair, je le cite, « Je suis chargé de défendre les clubs et tout faire pour que leur plateforme soit une réussite. Avec Bein, il y a un contrat qui a été signé, en bonne et due forme, il doit être respecté et appliqué. »
Alors, les GG, merci Arthur, reste dans le coin, parce que si jamais il y a des demandes de précision de nos GG, il faudra que tu puisses leur répondre. Mais est-ce que vous croyez à Ligue 1 Plus, vu comme c'est parti, on voit une grande campagne quand même publicitaire, on voit qu'il y a quand même des conflits avec Canal et avec Bein, donc tout n'est pas réglé au niveau des droits sportifs. Mais est-ce que vous y croyez, Ludo ? Tu crois ?
Plutôt.
Ouais.
Non, plutôt, je trouve que l'équipe qui a été mise en place, bon, souvent c'est des camarades, donc on les connaît bien, mais je trouve que c'est sérieux. Voilà, il y a des bons commentateurs, des bonnes.
En termes édito, tu trouves que voilà, il y a quelque chose.
C'est sérieux.
Ouais.
Voilà, que ce soit Xavier Domergue, Smaïl Webdella, Sébastien Dupuis, etc., Leslie Boitrel, Marina Lorenzo. Voilà, je trouve que ce sont des journalistes de qualité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, il y a l'aspect économique qui est totalement autre chose. Et là, ça se complique parce que si Bein et Canal ne jouent pas le jeu, encore une fois, on a l'impression que tout le monde ne tire pas dans le même sens. Donc, 1 million d'abonnés à la fin de l'année, j'attends
DAZN,
de voir.
DAZN, je ne sais pas si tu l'as dit, mais ils étaient à peu près. Il n'y avait jamais eu des chiffres qui sont sortis. Il y a quelques chiffres qui sont sortis.
Sur le nombre d'abonnés ?
Oui, sur le nombre d'abonnés.
C'était autour de 500 000, exactement.
Ouais, ils n'ont jamais décollé. Après, DAZN, ils ont fait de grosses erreurs.
Au départ, voilà,
d'abonnements, de chiffres,
des prix au départ, ouais.
Qui étaient, à mon avis, pas du tout atteignables, en tout cas, le nombre d'abonnés. Donc, ils ont bien fait de se retirer. Ils avaient choisi d'autres options qui, à mon avis, ne marchaient pas. Donc là, ça va dans le bon sens à ce niveau-là. Après, il y a l'aspect économique qui dictera sans doute l'avenir de Ligue 1 Plus ou pas. Les clubs en ont besoin parce que là, c'est quand même un sacré pari, hein, de partir sur une chaîne diffusée par la Ligue. Donc, pour les clubs français, il faudrait que ça marche. Et la plupart des clubs ont fait leur budget sans les droits télé, ce qui est quand même assez incroyable. Donc ils vont faire tourner les centres de formation à plein. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, voilà, on va voir ce que ça donne. Le plan éditorial, encore une fois, je suis pas inquiet.
Ouais, alors évidemment, il y a cet abonnement et cette politique plutôt agressive avec des prix qui sont abordables, clairement moins de 10€ notamment. Marion, est-ce que toi tu y crois, ce projet Ligue 1 Plus ?
Alors, moi, j'ai fait quand même un petit peu mes petits calculs, parce que j'aime bien être quand même assez cartésienne dans mon raisonnement. Si on prend un abonnement moyen, donc à 14,99€, donc là, les fameuses 99 centimes, ça me saoule aussi dans les prix, mais bon, on va dire les 15€ par mois sur 12 mois, 180€, fois 1 million d'abonnés, qui est donc le chiffre c'est qui est visé calcul, par les gains plus, 180 millions d'euros. OK?
Ouais.
Pour rappel, Canal Plus offrait il y a 3 ans 600 millions d'euros. Et les frais de diffusion incombaient à Canal. Donc moi, je veux bien qu'on m'explique à 180 millions d'euros le modèle économique est viable pour les clubs, mais je vois pas comment c'est possible. Donc, d'un certain côté, effectivement, c'est très bien de rendre accessible avec des prix mensuels qui deviennent plus raisonnables aux personnes qui désirent pouvoir regarder la Ligue 1. D'accord, mais il faut viser beaucoup plus qu'un million d'abonnés.
La Ligue se met ça comme objectif, Marion, mais ils savent très bien que pour être totalement rentable et pour répondre aux attentes des clubs, il faut en moyenne, c'est le chiffre qui a été donné, il faut en moyenne 7 millions d'abonnés.
Ben bien sûr, mais c'est exactement.
Parce qu'ils font le même calcul que Marion.
J'allais venir là-dedans.
Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas augmenter les prix, ça c'est autre chose.
Oui, mais alors, non, mais attention, alors j'ai deux éléments dans ma réflexion, exactement. Comme le dit Ludo, ils vont perdre des gens. Et le deuxième problème, c'est Canal. Parce que Canal, aujourd'hui, ils ont la première ligue, ils ont les Coupes d'Europe, et ils ont le top 14 avec le rugby qui grappille beaucoup de parts de marché sur le foot. Donc, comment ils vont passer de 1 million à beaucoup plus pour arriver à ce que le modèle économique soit viable pour les clubs et que les clubs, les petits clubs, entre guillemets, de Ligue 1, on en revient à la même chose par rapport au cyclisme, touche assez de droits télé pour arriver à clore leur budget et avoir un budget qui est décent et pas uniquement avoir 3 ou 4 mastodontes qui eux arrivent à faire entre guillemets sans les droits télé, mais le reste des clubs en ont besoin de ces droits télé. Donc moi, le modèle économique m'inquiète fortement. Alors j'attends de voir. Hein, je suis pas sceptique pour le fait d'être sceptique. J'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça fonctionne. Je pense que c'est très très important que la Ligue 1 fonctionne en France et c'est extrêmement important que notre championnat soit diffusé et vu par le plus grand nombre possible de gens et donc qu'il soit accessible sur le plan financier. Mais j'ai quand même une certaine inquiétude.
Parce que la solution idoine, c'est vrai que c'était Canal. C'est une évidence. D'ailleurs, Nicolas Tavernois a essayé de se rapprocher de Maxime Saada. Ça, a priori, ça n'a pas marché, mais c'était la solution. C'était, il y a un savoir-faire, il y a une exposition. C'est le premier distributeur en France. Donc, évidemment, Canal, c'est la différence.
Il y a une historique.
Quand tu le mets sur Amazon ou sur DAZN, il faut bien comprendre que énormément de Français déjà n'y sont plus. Tu les as écartés et que c'est sous-diffusé. Donc, du coup, c'est vrai que depuis le produit Ligue 1 depuis quelques années, Canal a diffusé, j'y étais encore, c'est les 6 derniers mois en 2001 entre janvier et mai. Juin, c'était les derniers mois de Canal en Ligue 1. Voilà, c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs, pas encore. Mais non, voilà. Donc,
c'est peut-être pour ça que la Ligue 1 n'est plus sur Canal.
Ouais, je ne sais pas le dire. Non, mais voilà. Donc depuis Canal a disparu et j'ai envie de dire la Ligue 1 un peu aussi parce qu'on la voit beaucoup moins, voit beaucoup moins d'extraits, etc. Et même les prix qui sont donnés, moi ne m'enchante pas forcément parce que quand tu prends des prix sans engagement, moi j'aime bien prendre des formules sans engagement.
Oui, parce que
ensuite c'est beaucoup plus cher.
Bah oui, parce qu'après donc, l'été, tu sais pas ce qu'il y a
là,
sur la chaîne.
C'est pas cher. Il y a 3 mois.
Il y a aussi 99. La non possibilité de caster aussi. Hein.
Oui,
c'est un élément très important.
De mettre sur la télé.
Exactement, pour les offres qui sont mobiles, donc mobile, tablette, PC, il y a non-transfert sur la télévision, donc capacité de caster.
Donc tu regardes sur ton téléphone, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu ça. Les jeunes aujourd'hui, regardent sur leur téléphone aussi les matchs,
pas forcément la télé.
Jérôme.
On en est donc à un produit. La ligne éditoriale est plutôt encourageante, même si j'aurais aimé voir deux trois acteurs du football et notamment là ils viennent de recruter Vercoute en consultant,
mais
un ou deux gardiens de plus, c'est sympa.
Et puis François Pinet aussi, mais bon, il est sur AMC. Non, c'est pas ce que tu voulais dire.
Mais par contre, le produit en lui-même.
Non.
Économiquement, l'année dernière, on a fait débat sur DAZN, mais c'est le même en fait. La problématique, c'est que c'est pas viable. On oublie les clubs parce que effectivement, pour aller chercher 7 millions, Arthur, tu confirmeras, c'est impossible. 7 millions.
Ouais. Canal, avec, ça 9 millions et demi d'abonnés.
Sauf si ça s'arrange avec Canal Plus, c'est combien, encore une fois.
Voilà. Donc, c'est là où je voulais en venir. La Ligue 1 Plus survivra et sera un produit viable et économiquement intéressant pour les téléspectateurs, pour la Ligue 1 et pour les clubs, à partir du moment où on arrivera à se remettre d'accord avec Canal, ce qui n'est pas près d'être le cas. Donc, pour le moment, ce produit-là, il va être sympa, il va être pour les passionnés de football dont je fais partie, mais c'est tout, il ne décollera pas. L'histoire Canal avec le football, on ne passe pas dessus comme ça, et cette fâcherie avec ce diffuseur exceptionnel qu'est Canal+, eh bien, on va le payer pendant très longtemps.
Il faut rappeler que c'est depuis l'attribution des droits à Amazon, où Canal, pour deux matchs, payait plus qu'Amazon pour un match. Ouais. Mais c'est vrai que la Ligue s'est aussi un peu fourvoyée à cette époque.
Mais elle s'est fourvoyée.
Canal fait procès, les pairs, parce que à partir du moment où tu as signé un contrat et que Canal avait récupéré les deux matchs de Bein, tu peux faire autant de contrats que tu veux, tu les perds. Donc, ils ont voulu aussi, là, trouver un arrangement, c'était un préalable, en disant, nous, on veut bien revenir dans le jeu, mais il faut nous donner quitus sur ces droits passés, ce qui n'a pas été le cas. La Ligue aussi, il faut savoir ce qu'elle veut à un moment donné. Si tu veux que
j'ai l'impression que c'est quand même aussi maintenant devenu une histoire d'homme, Ludo.
Oui, aussi.
Et on doit donc en tirer des conclusions.
Une histoire d'homme. Hein.
Même si Vincent Labrune a un peu disparu.
Oui, et que Nicolas Taverneau a essayé de renouer le lien avec Canal+. Arthur,
c'est sûr.
Il y a deux choses quand même à savoir. On parle beaucoup de Canal+, et je pense qu'il ne faut pas oublier Bein Sport. D'abord, la première chose, c'est que demain, c'est le juge de paix. C'est-à-dire que, entre guillemets, le feuilleton des droits télé s'est un peu calmé. On a remis les choses à plat avec ce projet de création de chaîne.
Parce qu'ils n'ont pas payé la totalité de leur dernière créance.
Voilà. Je vais vous en parler. Donc demain, on va savoir vraiment ce que vaut la Ligue 1, en vrai. C'est, voilà, combien de personnes vont s'abonner tout de suite maintenant qu'on a un prix intéressant et qu'on a un seul diffuseur pour aller la quasi-totalité
des rencontres. Sans oublier l'IPTV. On n'a pas réglé le problème de l'IPTV.
Même si la Ligue a gagné beaucoup de combats et fait fermer beaucoup de sites IPTV, de serveurs IPTV. Attention.
Il y aura des nouveaux.
Et deuxième chose, il y a donc, et Marion, on a parlé, Bein qui n'a pas payé la totalité de sa dernière échéance. Bein qui parce que Bein estime avoir beaucoup de contraintes dans ses fameux choix 1 et 2 pour les samedis.
La capacité de pas pouvoir diffuser deux fois la même équipe sur deux week-ends consécutifs.
Et pas plus de 8 fois une seule équipe aussi.
Il y a quand même juste un truc.
Et paye cher Bein aussi. Hein, donc je pense que leurs réclamations ne viennent pas de nulle part non plus.
Mais non, mais il y a d'autres choses.
Quand tu payes aussi cher.
C'était un contrat signé à l'époque.
Et il y a d'autres choses.
Juste le contrat. C'est là où la Ligue se ferme des portes.
Juste un dernier truc. Ils veulent avoir Marseille et le PSG. J'ai oui, aussi pour vendre Ligue 1.
Bein, il paye cher. Et Arthur veut parler.
Non, mais juste un dernier truc, c'est que vous parlez de Canal. Bein Sport, ça va faire un mois que la chaîne ne parle que par courrier, intermédiaire avec la Ligue de football professionnelle. La dernière fois qu'on a connu ça, j'ai pas envie de vous rappeler de mauvais souvenirs.
C'était
vraiment l'épisode Média Pro quand il y avait des batailles juridiques. Donc, on va voir ce qui va se passer cette semaine. Je pense que ça va vraiment être une semaine charnière où il peut se passer beaucoup de choses. Mais il faut aussi penser à ce combat qui est en train d'être mené par Bein Sport face à la Ligue.
Parce que si Bein s'en va, c'est encore plus dramatique que ce qui est là. Bein met quand même beaucoup d'argent. Et que pour l'instant, il n'y a aucune écoute, on a l'impression, de la Ligue. On a l'impression que tu parles à des gens qui à chaque fois disent
c'est le contrat.
C'est compliqué.
Ils ont un produit où ils veulent, eux, mettre en avant leur produit.
Pour l'instant,
oui, mais ton produit est en train de perdre de la valeur.
Voilà,
ils ont de l'oseille dehors et ils sont pris à la gorge par le crédit effectué. Donc il faut qu'ils remboursent leur dette et la Ligue, elle peut plus discuter. Elle est affaiblie, elle ne peut plus. Elle doit faire exécuter les contrats, sauf qu'elle va se mettre le monde de diffuseurs, les diffuseurs du football à dos. Et je te confirme, Arthur, cette semaine risque d'être dramatique pour le football français. Hein.
Marion, tu voulais rajouter un truc?
Non, mais là, je rejoins totalement Arthur, c'est que la Ligue doit faire preuve de beaucoup plus de flexibilité. Et que oui,
elle peut pas, Marion, elle est prise à la gorge économiquement.
Oui, mais de toute façon, s'il n'y a plus de rentrée. Mais oui, mais s'il n'y a plus de rentrée, à un moment donné, il n'y a plus de diffuseur, tu feras quoi? T'es obligé d'aller
vers le sens. Il faut écouter Bein aussi à un moment donné. Il faut les écouter.
Exactement. Ils ont des vrais t'es obligé d'aller dans le sens des diffuseurs.
Tu lances un nouveau produit Ligue 1 Plus. Si t'as pas Marseille et le PSG toutes les semaines,
mais ils le savent. François, il y a un 9e match qui est gardé par Bein Sport où ils ont choix d'avoir un choix numéro 1 ou un choix numéro 2.
Ils le savent quand ils ont créé leur chaîne.
Ils auraient pu négocier avec eux, le récupérer, tout ce que tu veux.
Ils savent que s'ils font sauter ces clauses, ils auront quasiment jamais Marseille et le PSG.
Mais en attendant, il récupère 80 millions d'euros d'un diffuseur historique pour un match. Voilà.
Donc voilà, ils sont contents, sauf que ça ne va peut-être pas durer. Et que si Bein, à un moment donné, dit stop, nous on s'en va.
En plus, ils ont beau dire,
on aura tous les matchs, on sera contents, mais voilà, donc à un moment donné, non, c'est, je veux dire.
Pour les clubs, c'est important. Bon, voilà, évidemment, ça va être très important à suivre avec toi, Arthur Perrault. Donc ça veut dire que
j'espère que les visioconférences seront filmées. On va peut-être assister une nouvelle fois. Jean-Bierre,
Jean-Bierre,
il est en ligne, laissez-le tranquille.
Jean-Pierre. Et la Ligue 2 est sur BeIN, tout va bien.
Jean-Pierre.
Merci beaucoup, Arthur.
Jean-Pierre.
On en parlera toute la semaine prochaine.
Jean-Pierre.
Restez avec nous.
La visio n'est pas terminée. On revient dans un instant avec les grandes gueules du sport pour le fameux débat caché. Restez avec toi tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h49, les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi. Vous le savez, retrouvez en podcast dès maintenant sur l'appli RMC. Si vous vous réveillez seulement maintenant, faut vraiment vous brancher sur le podcast. Hein. Et merci à toi d'ailleurs qui nous écoute en ce moment, peut-être, en podcast.
Merci à toi.
Merci à toi, voilà. Mario Bartoli, Ludo Duchesne, Jérôme Pinot, vous l'avez compris.
Jean-Pierre.
Ils sont toujours là, avec Jean-Bien peut-être.
Jean-Bien.
Allez, tout de suite, c'est l'heure du débat caché, c'est parti.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Eh oui, les grandes gueules du sport qui ne savent rien. Et pourtant, elles vont devoir débattre sur ça. C'est parti.
Pourquoi se contenter d'un sport quand on peut en faire trois d'affilée? Le triathlon, c'est un sport qui regroupe trois disciplines. Tu nages 1,5 km, tu fais 40 bornes à vélo et tu termines par 10 km de course à pied. Sauf que l'Ironman, c'est la version XXL. Déjà, t'attaques avec 3,8 km de natation, en eau libre, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ensuite, tu sautes sur ton vélo pour 180 km. T'as à peine le temps d'enlever ta combi, de chausser tes pompes de cycliste et hop, direction le goudron. Et quand t'as terminé ça, bah tu cours un marathon, 42 km.
Moi, je suis Ironman.
C'est une question qui a enflammé la toile. Ça m'étonne que vous n'ayez pas vu passer cette question. Et des spécialistes de la question se sont penchés vraiment sur le sujet. C'est très important cette semaine. Devant les performances de Léon Marchand aux Mondiaux, celle de Pogacar également sur le Tour de France, cette question qui s'est posée, c'est celle-ci. Et je vous la pose. Qui remporterait l'Ironman entre Léon Marchand, Tadej Pogacar et Eliud Kipchoge, deuxième meilleur chrono d'histoire sur marathon? Bah oui,
facile.
J'adore cette question, j'adore ça. Alors facile, tu dis.
Bah
tu mets qui?
C'est Tadej, tranquille.
Tadej.
Mettrait tout le monde d'accord.
Marion, t'as une idée?
Kipchoge, deuxième meilleur chrono de l'histoire sur marathon. Je préférerais Léon Marchand sur marathon, hein, franchement. Mais bon, je pense à Tadej Pogacar avec le cyclisme.
Ah, Pogacar, tu penses quand même?
Ah, bah oui, 180 km.
Jérôme aussi, tu penses Pogacar?
Étant donné que le vélo, c'est la discipline dans le triathlon où tu palpes le plus de temps et que c'est là que tu te crées le plus d'écart. Ah. Ouais, je pense
donc, il n'y a pas de débat pour vous, ça serait Pogacar.
Alors,
on a déjà vu nager en même temps.
Déjà, il n'y en a pas parce que je ne vois pas à quel moment on pourra les mesurer. Mais voilà.
Si on
part dans le délire.
Bah ouais, il faut partir dans le délire. Attendez. Alors, je rappelle, hein, 3,8 km de natation en eau libre. Ça aussi, c'est un inconvénient pour
les
marchands.
Est-ce qu'ils savent nager, les trois, là? Parce que s'il y en a un qui a la bouée canard, l'autre qui a la bouée licorne, à un moment donné, déjà, ça fait les écarts, quoi.
Non, mais Léon Marchand, il prend de l'avance. On est d'accord.
Ah bah,
sur les 180 km de vélo, s'il te plaît, déjà, je pense qu'il va en perdre pas mal.
Si,
les 42 km
si
de course.
Si
c'est celui d'Embrun ou de Nice, je peux te dire qu'un vélo.
En plus, si ça grimpe, là, je peux te dire que là,
si c'est Embrun, il faut se taper les ovards dans les deux sens, à mon avis, Léon.
Il va se coacher dans la côte.
Les 500 watts étalons, ça va faire mal.
Kipchoge sort pas de l'eau, donc non là-dessus. C'est...
Comment ça, Kipchoge, il sort pas de l'eau, n'importe quoi. Peut-être plus tard que les autres, on est d'accord, mais il sort de l'eau quand même. 180 km de vélo, effectivement, pour Tadej Pogacar, c'est peut-être un avantage. Je vous cite quand même ce qu'a dit Cédric Fleureton, ancien triathlète, interrogé par nos confrères de 20 minutes, qui dit effectivement, on peut penser que Pogacar parcourait les 180 km en 4 heures, contre 6 heures pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type d'effort. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça, Jérôme?
Imagine, deux heures.
Ça lui donnerait un grand avantage.
En plus, ça dépend aussi du parcours, mais t'imagines que c'est celui d'Embrun, par exemple,
donc
tu vois, ça monte deux fois. Quand tu vois que Pogacar, avec le deuxième coureur du monde, et il lui met 7 à 8 minutes par montée, t'imagines sur des mecs qui n'ont jamais fait de vélo. Ouais,
ça ferait mal.
Effectivement, ça ferait une heure et demie, deux heures d'écart. Donc après,
il pourrait finir à cloche-pied. Il peut y aller, bouée canard.
Et il fait en moonwalk, le marathon. Moonwalk.
Après, petite précision quand même, parce que c'est un débat très sérieux. Je vous l'ai dit, il y a des spécialistes qui se sont interrogés, qui ont posé cette question.
On ne peut plus sérieux.
Par exemple, Ludovic Chornion, alias Ludo le Fou, qui est connu pour ses 41 Ironman en 41 jours. Il dit, mon entraîneur de natation qui sort souvent en tête après l'eau libre dans un Ironman, je le rattrape au bout de 60 km en montagne. Et le marathon, si t'es un peu lourd, et que t'as pas de technique, eh ben c'est beaucoup plus difficile pour toi.
Ouais. Alors après, si tu veux rentrer dans cette explication-là, tu peux aussi te dire que la course à pied, je vais me faire assassiner par les techniciens du running, mais est le sport le plus facile à apprendre. C'est-à-dire que tu peux partir d'une base zéro, si tu es un super moteur, la technique de course est très facile à apprendre, en tout cas à facile quand tu as un gros moteur. C'est-à-dire que les trois là, ils ont un tel moteur que courir à pied, ça va pas être un souci. En revanche, les mettre sur un vélo pour monter un col,
oui.
T'as un peu plus de temps d'adaptation. Et pour arriver à un niveau d'un mec qui est pro à vélo, c'est très compliqué. J'imagine qu'à Tadej Pogacar, après sa carrière, il va se mettre à courir à pied comme beaucoup de cyclistes le font. Ça galope très vite. De suite, on a vu Nasser Bouhanni faire un marathon en moins de 3 heures. C'est des choses qui s'attendent.
Surtout, ils ont un rapport poids de puissance qui est énorme, avec... ils sont hyper légers.
Voilà, et tous les trois sont légers. Alors, la natation, c'est difficile, très technique et très dur. Et déjà, il y a cette appréhension de la flotte. Le vélo, c'est quand même assez compliqué à apprendre, même si on a l'impression qu'on est abruti, qu'on pédale fort sur les pédales. C'est un peu plus compliqué que ça. Et de s'adapter à cet effort si long, et notamment s'il y a de la montagne, il y a des différences énormes.
Ouais, c'est là où tu fais la différence.
Surtout sur un Ironman, en fait, tu passes quasiment les deux tiers de l'épreuve sur le vélo.
Ouais, c'est ça.
C'est pour ça que Léon Marchand serait désavantagé.
C'est en solitaire et Tadej, il fait finalement que des efforts en solitaire depuis qu'il a commencé sa carrière. Donc lui, d'être tout seul, ça va pas.
Un vrai Marchand, il est tout seul aussi, hein, il est pas en binôme. Hein.
Ouais, ça dure moins longtemps quand même.
Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Autre élément quand même en faveur de Pogacar, c'est qu'il y a d'anciens cyclistes qui ont gagné des Ironman. Laurent Jalabert a gagné un Ironman à 54 ans, dans sa catégorie d'âge, mais il a gagné un Ironman. Et pour la petite histoire, en natation, il était lâché, 86e. Il a réussi à rattraper tout le monde en vélo et à résister ensuite au retour sur marathon.
C'est ce que disait Jérôme, c'est exactement la même explication. Voilà. Et en plus, c'est vrai que s'il y a de la montagne, etc.,
du monde d'Ironman,
les différences qui seront faites dans l'Izoar ou un autre col seraient tellement importantes.
Alors, qui terminerait deuxième ? Pogacar, voilà, il a gagné l'Ironman.
Kipchoge, je pense.
Ah oui ?
Bah, peut-être
chose après, après il fait un marathon, s'il sort après de la natation et le vélo. Ah, quand même.
Non, s'il sort de l'eau, oui, mais après,
si t'entraînes
faut
costaud,
qu'il arrive à sortir de l'eau.
Si t'entraînes costaud Léon sur un vélo, à mon avis, ça doit envoyer un peu les watts quand même. Léon Marchand, tu sors bien de l'eau et tu t'entraînes bien à vélo, tu le positionnes bien.
Il est très grand, Léon Marchand. Peut...
Il fait très
grand en Ironman. Moi, j'ai
fait 77 kilos. J'ai son poids, si vous voulez.
Ouais, quand même, 77, Jérôme.
Un de mes associés au magasin, il est très grand, il est très puissant et il fait des championnats du monde d'Ironman tous les ans. C'est-à-dire, c'est la grandeur, la taille du coureur quand il est bien posé sur son vélo, c'est pas un problème. Si ça
il fait 1m83. Ça va.
Donc, c'est pas un souci pour un coureur cycliste. Miguel Indurain, je faisais 1m83 ou 84, hein, donc ça peut rouler très vite.
Je pense qu'il y a quand même plus aussi beaucoup d'entraînement. Il y a le volume d'entraînement parce que Léon Marchand, il est habitué à s'entraîner de doubler les séances tous les jours.
Non, mais là, on est dans un délire complet.
Ah, parce que les autres, ils s'entraînent.
Non, mais
sur
les entraînements à choc, sur les entraînements à choc comme la course, Kipchoge s'entraîne une fois par jour. Sur le je pense qu'effectivement, là où je rejoins Jérôme, c'est que c'est la capacité à développer des watts. Et sur le vélo, quand t'as la capacité, comme Léon Marchand, d'être grand et d'avoir une musculature qui est plus imposante que des coureurs de marathon qui sont extrêmement fins, pour développer des watts, il faut quand même des quadriceps qui sont extrêmement puissants. Et
si ça roule un peu, Kipchoge risque d'avoir une carence de watts.
En tout cas, j'adore parce que vous avez répondu très sérieusement à une question complètement
un
idiote.
Complètement délire,
on est d'accord,
on répond toujours à des questions, excuse-moi.
Mais ça, j'adore. Vous êtes tombé dans mon piège. C'est ça que j'adore.
Non, mais je pense que quand même, Pogacar, si on devait mettre un vainqueur.
Pogacar, vainqueur de la
Ironman. Deux Kipchoge, trois Léon Marchand.
Ok. Ah, pour toi, non, attention. Moi, je mettrais deux Léon
Marchand. Deux Marchands,
trois Kipchoge.
Non, deux Kipchoge. Ouais,
moi aussi, j'ai
confiance en lui.
Moi, j'espère qu'on fera cette course un jour. J'ai envie de voir ça. Comme c'est pas moi qui cours, ça m'arrange. Un Ironman, non, ça vous tente pas, vous? Ou alors, on vous met tous les trois, tiens, un Ironman. On aurait dû, tiens, faire le classement des GG de ce matin.
Ouais, moi,
c'est Jérôme qui gagne. C'est Jérôme qui gagne. Devant Marion, et je pense que Ludo, toi, t'es largué.
Non, moi j'ai fait le marathon de New York, mais bon, après il va falloir quand même que je me mette un peu au vélo. Non, si, j'avais fait pour. J'avais monté le col de l'Izoard en vélo.
D'accord. Donc Jérôme Pino 1, Mario Bartoli 2 et Ludo Duchesne 3. Et moi je vous regarde.
La condition que j'ai en ce moment, il n'y aurait pas un gros niveau. Ça roulerait pas.
Bon, merci mille fois.
Je suis capable de faire 180 bornes.
Merci beaucoup d'avoir accompagné.
Merci à toi pour des débats débiles.
Ah ouais, je suis là. Toujours là.
Il est toujours là.
Je serai
là
la semaine prochaine pour notre débat débile, t'inquiète pas. On est là, c'est la semaine prochaine, 9h. midi, les grandes gueules du sport. Merci Jérôme, merci Marion, merci Ludo. À très bientôt sur RMC. Et tout de suite, les paris RMC avec les meilleures cotes sur la Super Coupe d'Europe PSG Tottenham et puis une spéciale Ligue 1. Bah oui, c'est le moment de se demander qui sera sur le podium et qui va descendre. C'est tout de suite sur RMC.
Jumbert.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.